Décryptage. Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous. Dans Décryptage ce soir, l'inquiétante alliance entre Trump et Poutine. Alors que la guerre en Ukraine est entrée dans sa quatrième année aujourd'hui, le lâchage de Kiev par les États-Unis de Donald Trump au profit de la Russie de Poutine stupéfie le monde et fait trembler les Européens. Pourquoi le président américain courtise-t-il autant son homologue russe au point d'en adopter sa rhétorique et de traiter le président ukrainien de dictateur ? Le dégel des relations entre les deux superpuissances, américaines et russes, est-il durable et menace-t-il l'avenir du continent européen ? Tout en bouleversant également l'ordre international. Autant de questions, on en parle ce soir avec nos invités à mes côtés dans ce studio, Claude Blanchemaison, ancien ambassadeur de France en Russie, ancien directeur des départements d'Europe et d'Asie au Quai d'Orsay. Bonsoir.
Bonsoir.
Et également en ligne avec nous depuis Tbilissi, notre correspondant en Géorgie, Régis Jeantet. Auteur de
Bonsoir à vous.
Notre homme à Washington, Trump dans la main des Russes, paru aux éditions Grasset. Bonsoir Régis. Et merci Bonsoir. À tous les deux de nous rejoindre sur RFI. Pour commencer, Claude Blanchemaison, votre analyse sur ce spectaculaire revirement américain qui permet à la Russie paria de revenir sur le devant de la scène internationale, alors que, on l'a dit, l'Ukraine, elle, est acculée, son président Zelensky traité de dictateur par Donald Trump.
Je crois que les motivations de Trump sont essentiellement des motivations économiques, c'est-à-dire qu'il considère que les États-Unis et la Russie peuvent faire des affaires ensemble, et c'est ce qui le motive en général. D'ailleurs, on voit bien que lors de la réunion qui était dirigée par les deux ministres des Affaires étrangères, mais où il y avait aussi les conseillers diplomatiques et puis d'autres participants à Doha, la question de... d'éventuels investissements américains dans le Nord Arctique pour rechercher du pétrole et du gaz a été évoqué, et que ceci intéresse les sociétés américaines. Et il y a beaucoup d'autres opportunités, évidemment, notamment en ce qui concerne les matières premières dans ce vaste pays qu'est la Russie. Je crois que ça intéresse Donald Trump et un certain nombre d'hommes d'affaires qui sont dans son entourage. Et on voit bien que la négociation s'est déplacée sur ce terrain-là, et que dans le fond, l'affaire ukrainienne est devenue malheureusement une variable d'ajustement. Nous pensions que c'était le principal sujet de Doha, c'était un sujet accessoire. Beaucoup d'autres sujets ont été évoqués, et notamment la coopération économique. C'est pas très nouveau dans le fond, parce que moi, j'étais à Moscou en poste il y a très longtemps, puisque c'était en 2000. Poutine venait d'arriver au Kremlin. Premier mandat de Poutine, premier mandat au Kremlin. Et à l'époque, la hantise des Américains était que l'Europe, que l'Union européenne conclue des accords économiques avec la Russie ou développe les accords économiques déjà existants avec la Russie. Les Américains ne supportaient pas cette perspective. Alors depuis, le monde a tourné, Poutine est devenu un prédateur absolu, il l'était peut-être déjà à l'époque, mais il est devenu effectivement un prédateur qui piétine le droit international, y compris par l'invasion d'un pays dont la Russie avait reconnu l'intégrité territoriale, et ça n'empêche pas le nouveau président américain, revenu au pouvoir, de dire, après tout, le droit international, c'est une variable parmi d'autres. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rétablir des rapports normaux avec la Russie, de façon à ce que la coopération économique puisse repartir.
Comme il est normal pour le président américain de passer d'allié de l'Ukraine à l'avocat de Poutine, sur des simples ressorts économiques, dites-vous.
Alors, ça ne veut pas dire qu'il conclut une alliance militaire avec la Russie. Il faut quand même pas pousser les choses trop loin. Mais en effet, une partie de son langage reprend le langage de Poutine. La responsabilité de la guerre serait du côté ukrainien et même du côté du président ukrainien personnellement. Et puis, on ne parle pas des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre qui ont été commis à Boutcha et ailleurs par les troupes russes Effectivement, on ne parle plus non plus du principe du retour un jour à l'intégrité territoriale. Parce que c'est une chose de dire qu'il est possible que l'Ukraine n'ait pas la capacité aujourd'hui, la capacité militaire, de recouvrer les territoires occupés par la Russie. Mais c'en est une autre de dire qu'on ne parle plus du tout de la perspective d'un retour aux frontières qui ont été reconnues internationalement. D'ailleurs, personne ne reconnaît les conquêtes de la Russie, même celle de 2014, même la Crimée. Eh bien, la Chine, dont on dit qu'elle est plus ou moins l'alliée de la Russie, la Chine n'a jamais reconnu et ne reconnaîtra pas l'annexion de la Crimée, pas plus que celle des autres oblasts qui ont été annexées. Donc on est dans un monde qui est devenu complexe, une situation qui est compliquée, et on le voit encore aujourd'hui avec ce vote à l'Assemblée générale des Nations Unies sur deux résolutions concurrentes. La résolution habituelle qui condamne la Russie pour son agression, qui fait référence à l'intégrité territoriale, et puis une résolution toute nouvelle de cinq lignes rédigée par les États-Unis qui ne parle plus d'invasion, de responsabilité de la Russie, ni d'intégrité territoriale de l'Ukraine.
Et au moment où vous nous expliquez tout ça, je vois tomber parmi les dépêches, Trump évoque ce soir des discussions sur des accords économiques majeurs avec Poutine. Régis Janté, ce rapprochement entre Trump et Poutine, vous l'annonciez quasiment dans votre dernier ouvrage, Trump dans la main des Russes. Entre le milliardaire américain et la Russie, c'est une longue et vieille histoire.
Oui, absolument. C'est vraiment une histoire de quatre décennies, en fait, plus de 40 ans, qui, à vrai dire, s'origine même dans les années 1970 et qui a beaucoup à voir avec la façon dont les services de sécurité russes, le KGB et ses successeurs, ont approché M. Trump. Dans les années 70-80, l'URSS est en train de s'effondrer. Il y a un gros problème de recrutement pour les services de sécurité russes. Et on a les documents, ils ont été rendus publics, de comment, à ce moment-là, le KGB réfléchit et comment il veut recruter de nouvelles personnalités. Et on voit que les portraits robots qui sont dessinés des cibles, et bon, font que M. Trump est tout à fait dans la cible. Il fera son premier voyage à Moscou en juillet 1987, qui est une opération du KGB. C'est ce que me disent toutes mes sources dans le renseignement américain. Et au retour, il écrit une lettre ouverte dans les trois plus grands journaux américains pour dire qu'il faut cesser de financer les autres pays membres de l'OTAN, qui est aussi quelque chose qui se dit dans les milieux républicains de l'époque. Donc ça fait pas une preuve que M. Trump a obéi aux ordres de Moscou à ce moment-là, mais il se trouve en phase avec eux.
Est-ce à dire, Régis Janté, que Trump pourrait se laisser manipuler par Poutine, hein ? Vous le rappeliez, c'est un ex du KGB et qui pense par ailleurs que le milliardaire américain est très influençable et à progain.
Oui, c'est ça. On a plein d'éléments qui le disent, des gens qui ont travaillé avec M. Trump pendant le premier mandat et qui montraient dans le détail par ce qui se disait dans le secret du bureau ovale ou de certaines réunions et montraient comment M. Poutine avait du poids sur M. Trump. Par exemple, on sait que entre les deux mandats, il aurait, par exemple, M. Poutine lui aurait expliqué que après tout, les États-Unis ont ce qu'on appelle la doctrine Monroe qui permet d'avoir une sphère d'influence exclusive, les Amériques, on pourrait dire, et qu'après tout, M. Poutine ne lutte lui aussi que pour avoir sa propre doctrine Monroe, qui est l'ancien espace soviétique. Il faisait référence, par exemple, au président américain Theodore Roosevelt, qui était vraiment un des porteurs de cette, avec une version impérialiste de cette doctrine Monroe, quoi. Donc, on voit un Poutine qui sait travailler Monsieur Trump, quoi. Et donc, ça, c'est effectivement très important. Mais ce qui est peut-être encore plus important, c'est qu'au-delà de la manière dont il a pu être tenu, on va dire, c'est pas un agent, hein, c'est pas une marionnette, c'est quelqu'un qui est effectivement dans une relation, il est cultivé depuis 40 ans par les services russes et donc ça l'influence. Il y a des gens qui, comme par hasard, vont lui donner beaucoup d'argent à un certain moment, etc. Des gens qui sont pas directement des services, qui peuvent être des hommes d'affaires, qui peuvent être des mafieux très proches des services de sécurité russes, des profils comme ça. Il y a toute une série de gens qui sont de cette nature en quelque sorte et qui vont donc, mais qui vont aussi cultiver chez Trump non seulement le fait qu'il soit tenu, mais le fait que son ADN politique, ce qu'il est par lui-même, indépendamment de la Russie, convient plutôt, est plutôt en phase avec M. Poutine, un rejet plutôt de la démocratie, un amour des puissances, des États puissants, l'usage de la force, le peu de respect pour le droit international, etc. Et c'est peut-être encore plus fort que ce par quoi il est en partie tenu.
Claude Blanche-Maison, ça c'est la certitude. Les deux chefs d'État ont beaucoup de points en commun, comme vient de le dire et de l'expliquer Régis Janté. La droite américaine, la droite MAGA, a beaucoup de convergences idéologiques avec la Russie de Poutine.
Oui, et ce qui va tout à fait dans le sens de ce que disait Régis Janté, c'est que lorsque les deux présidents se sont rencontrés à Helsinki, lors du premier mandat de M. Trump, M. Trump a eu le culot énorme de désavouer ses services de renseignement et de dire « moi, je n'ai pas de raison de remettre en cause ce que vient de me dire les yeux dans les yeux M. Poutine » et qu'il n'avait rien à voir avec les affaires dont on l'accusait.
Je précise, sur l'ingérence avérée de la Russie dans la présidentielle de 2016 aux États-Unis.
Tout à fait.
Et c'est la dernière fois qu'ils se sont vus, d'ailleurs.
Voilà, c'est la dernière fois qu'ils se sont vus. Donc, effectivement, qu'un président désavoue ses services de renseignement pour dire que le président de la Russie, c'est lui qui dit la vérité, c'est évidemment... ça va tout à fait dans le sens de ce que décrit Régis Janté. Mais Régis Janté, j'ai noté, vient de dire à l'instant que ça ne faisait pas pour autant ça ne faisait pas pour autant de Trump un agent actif du KGB. Simplement, il y a effectivement des convergences d'intérêts. Et il faut bien dire aussi que tous les gens qui ont travaillé avec l'Union soviétique puis avec la Russie ont rencontré d'une manière ou d'une autre des agents du KGB devenus FSB et SVR, parce que c'était un état policier avec des services tout-puissants. Alors Poutine a tout à fait renforcé cet élément, cette caractéristique, mais les services ont réussi à traverser le changement de régime sans qu'il y ait d'opération de purification, pour juger les crimes commis à l'époque stalinienne ou pendant la période soviétique. Par conséquent, ils sont restés très importants, et avec Poutine, ils sont devenus évidemment de plus en plus importants, puisqu'ils sont partout, y compris dans le secteur économique. Donc fatalement, les gens qui ont fait des affaires avec la Russie ont connu d'anciens agents ou des agents toujours actifs du KGB ou de l'ancien KGB, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont devenus naturellement des agents. J'ajoute que M. Shevardnadze, lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères de la Russie, avait un propos assez amusant. Il l'a répété lorsqu'il était président de la Géorgie. Il dit « moi, j'étais l'homme le mieux informé du monde parce que dans mon ministère, les deux tiers des diplomates étaient aussi membres du KGB. Par conséquent, ils savaient tout et ils me faisaient rapport parce qu'ils étaient évidemment loyaux. » C'est formidable que Shevardnadze dise ça.
Régis Janté, qu'est-ce qui réunit le plus aujourd'hui Trump et Poutine? Vous l'évoquiez, c'est avant tout le même impérialisme, cette volonté de se partager le monde entre grandes puissances. C'est un nouveau Yalta que cherchent les deux hommes?
Oui, enfin, en quelque sorte, oui, il y a quelque chose comme ça, certainement. En tout cas, ce goût, comme une évidence pour eux, que défendre leur État, c'est vouloir en faire un grand État, quoi qu'il en soit du droit, quoi qu'il en soit des droits de l'homme, quoi qu'il en soit du bien-être des populations. Mais même si M. Trump explique qu'il fait ça pour sa population, qu'à bien des égards, en effet, il peut avoir, par son populisme, une sorte de souci de tenir ses promesses sur l'immigration, etc., mais avec beaucoup de mensonges et beaucoup de show, en fait, quoi. Mais effectivement, ça, c'est certainement quelque chose qui est très fort chez les deux et qui a une sorte d'accord. Et pour ce qui concerne Trump, il y a une histoire que j'ai racontée dans mon livre et qui n'est pas la plus évidente, la plus mise en avant, mais qui est très importante et où les Russes ne sont peut-être même pas encore en train de le travailler véritablement. C'est en 1984. M. Trump veut s'imposer comme le négociateur en chef du désarmement nucléaire entre l'URSS et les États-Unis, rien de moins. Et donc, il va donner, il commence à faire un peu de communication, donner des interviews. Un journaliste s'approche, lui dit: mais comment est-ce que vous feriez? Et Trump dit: bah, nous et l'URSS, bah, on va s'entendre un peu pour réduire, mais bon, on garde notre arsenal. Et puis les petits États comme le Pakistan ou la France, eh bien, eux, on leur mettra la pression pour qu'ils ne l'aient plus, quoi. Et vous voyez, déjà, ils rendaient un immense service à Moscou, alors que le pays était déjà très, très bancal, n'allait plus bien économiquement, etc. Et déjà, en fait, il lui servait en quelque sorte un discours qui permettait de rehausser son statut. Et ça, c'est très important aussi pour bien comprendre la relation. Pour M. Poutine, je crois que Poutine sait que son pays est faible, ce qu'on appelait la puissance pauvre quand on parle de la Russie. Il le sait très, très bien. Et en fait, pour rehausser le prestige de la Russie et donc obtenir plus que ce qu'il pourrait avoir par sa simple puissance financière, économique notamment, ou industrielle, eh bien, elle le compense par l'image. Et le fait de pouvoir discuter d'égal à égal avec M. Trump, comme à l'époque l'URSS pouvait le faire avec Washington pour de meilleures raisons, parce que l'URSS était plus puissante, ben ça c'est formidable, parce qu'on a l'impression que les deux plus grandes puissances du monde sont la Russie et les États-Unis aujourd'hui, alors que la Russie est la 9e puissance économique du monde, par exemple.
Alors Claude Blanche-Maison, vous avez évoqué la rencontre d'Helsinki entre Trump et Poutine, hein, c'était il y a 7 ans, c'est la dernière fois qu'ils se sont vraiment vus en tête à tête. Depuis, on le sait, les journalistes américains en ont parlé, ils se sont souvent parlé au téléphone. Qu'est-ce qu'on peut attendre désormais de cette réunion, sans doute encore en Arabie Saoudite, entre les deux hommes, à la fin du mois ou peut-être début mars prochain? Est-ce qu'on va assister au dépeçage de...
À mon avis, il y a encore une lutte au Kremlin entre les gens qui seraient d'accord avec Trump pour aller vite vers cette réunion au sommet, et ceux qui appartiennent au MID, au ministère des Affaires étrangères, qui sont des diplomates plus traditionnels et qui considèrent qu'il faut d'abord préparer toutes les conditions d'un éventuel cessez-le-feu. Et des conditions, il y en a beaucoup. Certaines ont été reprises en compte par Trump, mais pas toutes. Poutine lui-même en a ajouté, Lavrov en a encore ajouté, et les vieux de la vieille, c'est-à-dire Lavrov et plus le conseiller diplomatique de Poutine, qui sont des diplomates formés à l'époque soviétique, veulent passer en revue toutes les conditions nécessaires. Et effectivement, ils sont même peut-être capables de faire capoter tout accord. Je crois qu'ils n'y arriveront pas. Parce que, en effet, il y a du côté de Trump la volonté d'aboutir à un accord, même mal ficelé, parce qu'il a promis qu'il ferait la paix, donc il fera sans doute un cessez-le-feu, il finira par obtenir un cessez-le-feu. Poutine y trouvera un avantage, parce que ça lui permettra de réorganiser ses troupes pour l'attaque prochaine, et puis ça lui permettra aussi, puisqu'il y a un cessez-le-feu, de dire bah, il n'y a plus de raison d'invoquer la loi martiale en Ukraine pour reporter les élections. Donc il faut les élections, et ces élections, c'est pour lui, dans sa tête en tout cas, l'occasion de changer le président ukrainien, qui est quand même une de ses obsessions, Poutine. Mais il y a aussi beaucoup d'autres sujets que le MID voudrait bien évoquer et qui probablement ne le seront pas. Donc le risque, puisque vous m'interrogez sur le produit fini, lorsque cette réunion aura lieu, mais peut-être un peu plus tard que prévu, c'est qu'on ait un accord de cessez-le-feu mal ficelé, qui finalement obligera à avoir une vraie conférence de la paix après, puisque un cessez-le-feu, ça n'est pas la paix, ça n'a même rien à voir avec la paix, à avoir une réunion qui inclura nécessairement toutes les parties prenantes. Parce que le cessez-le-feu, tel que M. Trump l'envisage actuellement, il parle de paix d'ailleurs, il ne parle pas de cessez-le-feu. S'il n'y a pas l'Ukraine à la table, c'est un risque considérable. Ça veut dire que ce cessez-le-feu risque de ne pas être appliqué par l'Ukraine, ou qu'il risque de connaître de nombreuses entorses, parce que en Ukraine, comme d'ailleurs en Russie, il y a des nationalistes armés qui pourraient continuer le combat, même si leur gouvernement leur dit de ne pas le continuer. Donc il aurait intérêt, c'est peut-être, je ne sais pas ce que M. Macron est en train de lui dire actuellement, mais peut-être que M. Macron pourrait lui dire, puisqu'il le tutoie en anglais, paraît-il, écoute, tu ferais bien de faire attention, parce que si l'Ukraine n'est pas à la table de négociation, il y a une forte chance que le cessez-le-feu que tu auras négocié ne soit pas appliqué. Et on dira, Trump a négocié pour rien un cessez-le-feu qui n'existe pas.
Et ça sera le mot de la fin. Merci, merci beaucoup Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France en Russie, ancien directeur des départements d'Europe et d'Asie au Quai d'Orsay. Merci également à notre correspondant Régis Jantet, auteur de Notre homme à Washington, Trump dans la main des Russes, paru aux éditions Grasset. Merci également à Jugurtha Hammer qui m'a aidé à préparer cette émission, et à la réalisation ce soir, on n'oublie pas, Fabrice Violet.